Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool, je vole.
Moi, je suis né dans une famille de personnes très modestes, mais j'avais deux parents qui étaient sourds. Alors, c'est un peu la famille Bélier, c'est un peu ça. Et donc, j'ai compris dans mon enfance qu'est-ce que c'est que le handicap, qu'est-ce que c'est qu'une société qui n'est pas capable d'intégrer les différences, et en même temps, les possibilités infinies que chacun a, puisque finalement, un sourd, comme n'importe qui, peut tout. Et ça m'a donné quand même une base de départ intéressante. Et puis après, j'ai fait des études de physique. Et j'ai travaillé à la fois à l'université comme assistant d'un professeur et dans le secteur privé comme ingénieur. J'ai quitté tout ça pour rejoindre le mouvement international de la réconciliation dont j'étais secrétaire international. Je me suis occupé dans le monde entier de promouvoir la paix, la non-violence, la justice. C'est là que j'ai rencontré des personnes comme Adolfo Pérez Esquivel, qui est devenu prix Nobel de la paix plus tard, d'autres qui le sont devenus aussi, ou certains qui l'étaient. Sur ce chemin, j'ai été moi-même appelé à l'armée, dont j'étais objecteur de conscience, mais en ne cherchant pas à obtenir un statut d'exception, dont j'étais carrément insoumis. Et de ce fait, j'étais jugé par un tribunal militaire. J'en ai contesté la légalité, pas seulement devant le tribunal qui s'est estimé compétent, mais sur le principe juridique même. Et aujourd'hui, il n'y a plus de tribunaux militaires de temps de paix en France parce que les campagnes qu'on a montées ont permis de déboucher quand même sur quelque chose. De là, j'ai été appelé aux Nations Unies parce que, entre-temps, dans ce parcours, j'ai été en Italie, secrétaire général d'un parti politique, le Partito Radicale. Et donc, à partir de là, on a mené, entre autres, comme campagne, celle de faire en sorte qu'il y ait un budget d'aide au développement correct en Italie. Ce faisant, j'ai été appelé par le système des Nations Unies. Et du coup, je me suis retrouvé au programme des Nations Unies pour le développement, d'abord comme responsable de la communication sur toute l'Europe. C'est là, dans ce cadre-là, que j'ai créé l'Alliance mondiale des villes contre la pauvreté. Et je continue toutes ces choses en étant en particulier dans la promotion de l'économie sociale et solidaire, une voie essentielle si on veut réussir le XXIe siècle.
Et vous qui avez côtoyé du coup ces institutions, est-ce qu'il y a des réels effets sur la pauvreté, sur l'amélioration des conditions de vie ?
C'est un effet tellement important que si on compte en réalité ce qu'est cette structure onusienne, l'impact humain est énorme. S'il n'y avait pas eu les Nations Unies et donc l'alliance entre l'Organisation mondiale de la santé, le programme des Nations Unies pour le développement, même la Banque mondiale est associée dans ce programme, aujourd'hui vous auriez des dizaines de millions de personnes qui seraient aveugles en Afrique, alors qu'elles voient, parce qu'on a réussi grâce à ce genre d'alliance à combattre ce qu'on appelle la cécité des rivières, une maladie qui s'appelle l'onchocercose, et pratiquement à la réduire à sa plus simple expression. Donc des exemples comme ça, je peux en donner des dizaines. C'est aussi ce qui permet aujourd'hui à des réfugiés qui fuient la guerre en Syrie, en Libye ou ailleurs, de se retrouver dans les pays voisins et de survivre, alors qu'autrement ils seraient détruits et morts. Quelquefois on peut être impatient face à ce qui se produit aux Nations Unies parce qu'on a l'impression que ça va passer vite. Mais c'est normal. Les Nations Unies, c'est le plus petit dénominateur commun entre tous les pays du monde. Mais ce plus petit dénominateur commun, comme c'est aussi une mise en commun de ressources, ça peut faire beaucoup de choses pour l'humanité dans ses souffrances et dans ses difficultés. En 1990, on a publié pour la première fois, et on le fait tous les ans depuis, le rapport mondial sur le développement humain. On parlait de développement jusque-là. Quand on regardait le développement, qu'est-ce qu'on regardait ? On regardait essentiellement la croissance, l'évolution du produit intérieur brut.
Est-ce qu'elle est vraiment aussi importante que ce qu'on nous rabâche à longueur de temps, la sacro-sainte croissance ?
Alors, la croissance des échanges, elle est très importante, contrairement à ce qu'on pense, quelquefois. Elle est très importante parce qu'elle a été très lente dans le cours de l'histoire. On va partir de Jésus-Christ, donc l'an 1, jusque vers les années 1850. Et puis ensuite, les biens et les services produits par l'humanité commencent à monter en flèche et ils montent considérablement dans la deuxième moitié du XXe siècle, dans le dernier quart du XXe siècle et puis dans la période dans laquelle on est. Mais ce qui est monté beaucoup plus que ça, c'est la spéculation et l'économie complètement artificielle de la finance. Donc il y a un décalage colossal entre l'économie réelle, c'est-à-dire ce qu'on produit réellement comme bien, comme service, et ce qu'on peut se répartir entre nous, et puis l'argent qui circule dans le monde. L'écart, il est entre l'argent qui circule et ça. Et on ne sait pas pourquoi certaines personnes disposent d'une quantité d'argent qui est énorme et qui est incapable d'être utilisée, puisque les biens et les services qui sont produits au regard de cet argent sont infiniment petits par rapport à cette quantité d'argent. Donc, si on se rendait compte de la fausseté complète de ce que représente cet argent, on perdrait confiance dans ce système et on en créerait un autre qui est basé sur la réalité. Donc, c'est un peu ce à quoi on invite. Alors, c'est une solution absolument essentielle. C'est pour ça que, dans le cas de l'économie sociale et solidaire, certains ont créé leur propre monnaie. J'ai sur moi, par exemple, puisque je me trouve vivre à Genève, puisque c'est le deuxième centre mondial des Nations Unies, j'ai sur moi de la monnaie qui s'appelle l'élément. C'est une monnaie parallèle qui a été créée par la société civile, des gens qui ont décidé d'échanger de façon autre que ce que l'on fait habituellement.
Justement, ces monnaies locales, est-ce que c'est une solution qui pourrait justement permettre de retrouver une croissance réelle et pas une croissance basée sur la spéculation, etc. La monnaie locale, c'est une solution.
La monnaie locale, c'est une solution parce que c'est en réalité une capacité d'échanger le temps de quelqu'un contre le temps de quelque chose, de quelqu'un d'autre. C'est le troc. On mesure nos échanges de temps respectifs. On ne mesure pas quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que l'autre peut donner ou ce que moi-même je peux donner à l'autre. Donc ça permet de reconstruire des choses sur des bases de réalité et non pas d'artificialité. Et dans ce système, il n'y a pas de pauvres. Chacun peut avoir sa place et chacun peut donner quelque chose. Donc on peut reconnaître la dignité de chaque être humain, la valeur qu'il y a dans chaque être humain. Et là d'ailleurs, j'en profite pour souligner le rôle pionnier aussi qu'on peut avoir dans un système comme l'Organisation des Nations Unies. Parce que quand vous avez une déclaration comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, qu'on devrait dire Déclaration universelle des droits humains, parce que homme, c'est un peu sexiste comme expression, elle affirme un certain nombre de principes. Une fois que la totalité des États adhèrent à ces principes, et je veux simplement citer l'article 1, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont dotés de conscience et de raison et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Quand on a dit ça, on a tout dit. Tout ce qui vient après, si on le passe au crible de ça et qu'on est honnête, ça suffit, ça devrait suffire pour connaître nos règles de vie. Mais il y a un rôle pionnier aux Nations Unies en proposant ça. Une fois que c'est adopté par les États du monde, ce qui a été le cas à la conférence sur les droits humains de 1993 à Vienne, ça n'est plus la parole de certains qui souhaitent poser cette utopie, cet objectif à atteindre pour l'humanité. C'est la parole donnée par ceux qui gouvernent, qui ont la légitimité à gouverner, qui s'expriment en notre nom, qui expriment nos valeurs et qui fonctionnent avec nos ressources. Donc nous avons, en tant que citoyens, un point d'appui extrêmement fort parce que nous pouvons tenir comptable les gouvernants d'une chose à laquelle ils ont souscrit. On ne les force pas, on ne les a pas forcés. C'est ce qu'ils ont signé, eux. Donc on est tous engagés par ça, c'est le pacte qui lie l'humanité entière. Et c'est pour ça qu'il faut que nous employions, nous, à le traduire dans le concret. On ne va pas continuer à vivre dans la schizophrénie permanente dans le monde. On est capable de tout aujourd'hui. Moi, je suis né dans un monde de 2,4 milliards d'habitants dans lequel on sortait de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et donc il fallait reconstruire, il fallait produire. Les choses n'étaient pas accessibles en grande quantité. J'ai vu petit à petit, quand je grandissais, les magasins commençaient à se remplir de produits de toutes sortes, une diversification énorme qui s'est faite. Puis la télévision est apparue. Les gens s'agglutinaient devant les boutiques où on vendait les postes de télévision pour regarder le Tour de France ou pour regarder d'autres choses comme ça. Les gens n'avaient pas tous la télévision chez eux, loin de là. Et puis les technologies de l'information, de la communication qui sont arrivées, les ordinateurs, le téléphone portable, les échanges extraordinaires qu'on peut faire. Aujourd'hui, on a la capacité à tout faire. On peut aller sur la Lune. On a la richesse par habitant la plus élevée de toute l'histoire de l'humanité. Pourquoi a-t-on encore des pauvres ?
L'humanité est face à un choix aujourd'hui.
Oui, mais chacun d'entre nous est face à un choix. Donc il faut qu'on comprenne qu'on est en déficit de fraternité. Et si on veut combler ce déficit de fraternité, c'est pas si compliqué que ça. Il faut décider de déserter la société de la violence et de l'inégalité ou de l'injustice dans laquelle on se trouve, et de la consommation, de la surconsommation, et rentrer dans autre chose. C'est pas que la Terre, aujourd'hui, comme on s'est mis à consommer, à produire et à gâcher, à jeter, à produire des déchets, on est à un niveau de destruction qui est tel que, quand on regarde les ressources naturelles qui doivent se reconstituer, on consomme en un an ce qui met à peu près 15 mois à se reconstituer. Donc on est en train de manger l'héritage des jeunes d'aujourd'hui et de nos enfants, de nos petits-enfants.
La date qui avance chaque année, la date limite où on a consommé plus que ce qu'on a produit des richesses.
Absolument. Et on est la première. Moi, je fais partie de la première génération de l'histoire de l'humanité qui laisse à ses enfants en héritage une situation pire que celle qu'elle a été de ses parents. Et en même temps, je suis dans la première génération dans l'histoire de l'humanité qui a les capacités et les moyens de venir à bout de la pauvreté et de vivre bien. On ne peut avoir que les 7 milliards 200 millions d'habitants qu'on a, on va bientôt devenir 9 milliards à l'horizon 2050. C'est pas que on ne peut pas vivre sur cette planète parce que on provoque du changement climatique qui va provoquer des catastrophes, on épuise les ressources naturelles, etc. Mais c'est notre façon de vivre qui fait ça. On peut vivre autrement, en étant bien, en étant mieux, sans cette pression de la compétition entre les uns et les autres, et arriver à un résultat bien meilleur. La Terre peut porter sans aucun problème 12 milliards d'habitants, hein, encore le double même de ce qu'on a aujourd'hui, si on veut. À partir du moment où on sait agir de façon sage et en harmonie avec cette nature, au lieu d'être nous les ennemis de cette nature qu'on va piller, on a une attitude guerrière les uns vers les autres. Notre économie, notre façon d'être reliés les uns aux autres, c'est la compétition, alors que ce n'est pas adapté au monde. On est dans un monde de 7 milliards 200 millions d'habitants. Les ressources qu'on a sont limitées. On est en train de refermer la parenthèse pétrole dans l'histoire de l'humanité. Et on a ouvert le premier puits de pétrole il y a 150 ans. On va refermer le dernier dans 60 ans au maximum. Et après ça, il faut attendre 200 millions d'années pour que cette ressource se reconstitue. C'est un gâchis colossal. Il faut changer de façon d'être dans notre rapport avec la nature. Il faut regarder comment elle fait. Il faut limiter. J'ai eu la chance de travailler avec un collègue, Gunther Pauli, qui a lancé d'abord les produits biologiques, de l'écologie, écologique, etc. Et il a écrit récemment un livre qui s'appelle « La croissance infinie ». C'est-à-dire qu'il dit, si vous regardez comment la nature elle opère, elle récupère tout, elle recycle tout. Elle ne produit pas de choses inutiles. Même un animal qui va en attaquer un autre, il ne se met pas à en détruire plein à la fois. Il prend ce dont il a besoin pour vivre et pour survivre. C'est tout, rien de plus. Et si on se met à comprendre comment ça fonctionne et qu'on se met dans ce mimétisme, dans cette intelligence...
Admettre qu'on est des animaux comme les autres.
Admettre qu'on est un élément sur la planète comme les autres et qu'on n'est pas là pour la transformer, mais pour vivre en harmonie avec et en bonne intelligence avec, à ce moment-là, on peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus nombreux et vivre beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux.
Mais alors à ceux qui disent, oui, on va retourner à la bougie, qu'est-ce que vous répondez ?
Ah non, non, ça n'est pas du tout un phénomène de décroissance dans lequel on est, c'est un phénomène de désenflure, c'est pas pareil. On est enflé, on est malade. Donc il faut se guérir de cette enflure et c'est pas la bougie qu'on retourne. On a toutes les capacités de la technologie. Une des personnes que j'ai eu la chance de rencontrer, croiser dans tout ce parcours, c'est Bertrand Piccard. Bertrand Piccard est en ce moment en train de terminer le tour du monde avec un avion sans carburant. Il fonctionne avec l'énergie solaire. Donc c'est un défi qu'il a voulu lancer. Parce qu'on montre qu'il ne s'agit pas de retourner à l'époque des cavernes. On mobilise l'intelligence humaine. Elle est extraordinaire.
Ce soir, je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool, je vole.